Spotkania europejskie.
Rozumiejącą tę Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Juliette Rangeval.
Bienvenue au Carrefour de l'Europe. Pandémie, guerre en Ukraine, changement climatique, rivalité commerciale avec la Chine et les États-Unis. Face aux crises, l'Europe est-elle condamnée à la puissance, comme a pu le dire Pascal Lamy? Et quelle forme peut prendre cette puissance européenne? La géopolitique, les institutions, la citoyenneté européenne, beaucoup de mots qui étaient tabous il y a encore peu de temps, résonnent ces jours-ci sur la scène de l'Europe. Et à la veille du 9 mai, journée de l'Europe, nous retrouvons nos partenaires du Grand Continent, la revue Née en ligne, qui a publié, voilà quelques semaines maintenant, son premier volume papier chez Gallimard, Politique de l'interrègne. Nous sommes en compagnie de Gilles Gressani, directeur du Grand Continent, de Florian Louis, historien, qui s'est beaucoup penché sur le concept de géopolitique européenne, et avec nous également en ligne de Venise, Luisa Bialasiewicz, géographe et professeur de gouvernance européenne au département d'études européennes de l'Université d'Amsterdam, et dans le studio d'RFI à Bruxelles, Alberto Alemano, juriste et titulaire de la chaire Jean Monnet à HEC. Bonjour à tous. Gilles Gressani, vous qui suivez très précisément ces questions, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une européanisation par les crises?
C'est la grande question qu'il faut se poser. Je pense que si on a choisi ce mot qui peut paraître un peu complexe, interrègne pour ce premier volume papier, c'est vraiment parce qu'on a essayé de rendre compte au fond d'un phénomène qui peut paraître un peu étonnant. Depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, depuis la crise économique, au fond, on assiste à une série, un amoncellement de crises mondes, de crises qui nous concernent tous, qui nous sidèrent, du terrorisme, la crise de la pandémie, évidemment, aujourd'hui la guerre en Ukraine. Et tout au long de cette grande période de transformation, au fond, à chaque fois, on se dit, c'est la dernière crise pour l'Union européenne, ça va s'effondrer, ça va finir. Et au fond, on se rend compte que, en réalité, dans cet interrègne, dans ce moment de transformation géopolitique dont on parlera aujourd'hui, au fond, l'Union européenne et l'Europe se sont renforcées. Le sentiment d'appartenance, aussi la dynamique institutionnelle et aussi un parti citoyen est sorti bouleversé, mais aussi changé de cette période. Et au fond, la question qu'il faut se poser, c'est, évidemment, c'est la fameuse phrase de Jean Monnet, si on ne doit pas changer le regard vis-à-vis que l'Europe, du rapport qu'a l'Europe vis-à-vis des crises.
Dans Politique de l'interrègne que vous publiez chez Gallimard, donc il y a un chapitre qui est signé par Luisa Bialasiewicz qui est passionnant, qui est sur ce moment géopolitique européen. L'utilisation du vocabulaire géopolitique au sein des institutions européennes, ça peut sembler relativement nouveau. Il y a ce que vous appelez, Luisa Bialasiewicz, un imaginaire géopolitique européen qui est quand même assez ancien, lui, qui remonte au début de la construction européenne.
Oui, c'est absolument vrai. Je crois qu'en ces moments de panique géopolitique, avec les appels constants pour que l'Europe devienne géopolitique, je crois que c'est très important en fait que nous nous demandions ce que nous entendions réellement par la géopolitique européenne. Alors, comme j'écris dans le chapitre, les imaginaires, le mot que nous choisissons pour décrire la puissance européenne, ils ne sont pas innocents. Ils sont en fait très importants pour définir ce que nous voulons que l'Europe fasse, ce qu'elle devienne comme acteur. Mais je crois que malheureusement, c'est la terminologie de la géopolitique classique qui fait un retour en force maintenant, et même avant la guerre en Ukraine, précédant même la pandémie. Alors, c'est une terminologie du pouvoir dur, du hard power, du monde très dangereux, où on ne peut agir que par des moyens militaires. Mais il existe en fait une longue histoire d'autres imaginaires de l'Europe en tant que médiateur, en tant qu'acteur civil. Et c'est une histoire qui est en fait présente dès le début du processus d'intégration européenne. Je pense surtout au travail de François Duchesne, un collaborateur de Jean Monnet, et son idée en fait d'Europe qui agit par une coopération civilianisée, comme il l'appelait, une Europe qui agit par l'interdépendance. Et c'est la même idée, en fait, qui vient proposer par Étienne Balibar au début des années 2000, avec la guerre en Irak. Alors, une Europe qui pouvait être comme médiateur dans le monde. Alors, aujourd'hui, en dehors, je crois, de ma propre préoccupation concernant une précipitation excessive à militariser le projet européen, essayaient de mettre l'Europe, on peut dire, dans la boîte du seul pouvoir d'or, ça ne peut que l'affaiblir. Parce que je crois que c'est contraire à son histoire, mais aussi parce que cela en fera toujours une puissance inférieure. Une puissance inférieure à d'autres acteurs comme les États-Unis. Et je ne crois pas que c'est là que réside le vrai pouvoir européen.
Florian Louis, vous êtes d'accord avec ce que dit Louisa Bialasiewicz sur cette volonté d'enfermer l'Europe dans une boîte du pouvoir dur et qui finalement devrait l'affaiblir ?
Oui, je suis tout à fait d'accord parce que je dirais même qu'un peu paradoxalement, cette conversion européenne à la puissance est une forme d'aveu de faiblesse de l'Europe puisque l'Europe s'est construite justement sur l'idée d'un dépassement de la puissance avec l'idée qu'elle allait servir de modèle au reste du monde et que le reste du monde allait s'inspirer du laboratoire européen, un laboratoire post-puissance, post-guerre, etc., etc. Et finalement, elle est contrainte de voir que le monde n'évolue pas dans le sens qu'elle aurait souhaité. Et donc, de se convertir, faute d'avoir converti le monde à son modèle, de se convertir au modèle qui reste prégnant dans le monde, qui est un modèle rugueux, un modèle de la puissance. Donc, l'Europe, c'est un aveu de faiblesse, d'une certaine façon, que cette conversion à la puissance. Ceci dit, c'est aussi la preuve qu'elle est capable, malgré tout, de s'adapter et de prendre les choses en main, de prendre les choses telles qu'elles sont et d'essayer de peser avec les instruments qui sont les siens. Et par contre, je pense qu'elle a effectivement sans doute pas les armes pour rivaliser dans un avenir proche avec les États-Unis. Malgré tout, elle a quand même de quoi peser dans un monde où le langage de la puissance devient ou reste finalement prégnant, même si elle avait pensé pouvoir dépasser ce paradigme-là.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème pour l'Europe aujourd'hui qui serait la volonté de ces 450 millions d'Européens ? C'est une question que je vous pose à vous, Alberto Alemano. On parle beaucoup de comment l'Europe va s'imposer sur la scène mondiale. Peut-elle le faire avec faiblesse, avec force ? Mais les citoyens restent, eux, visiblement encore à convaincre du projet européen.
Plusieurs signes nous disent que nous assistons aujourd'hui à la naissance timide d'un espace politique européen et qu'il y ait une volonté de la plupart des citoyens de comprendre à quel niveau les décisions sont prises en Europe. Cependant, il y a un manque d'éligibilité de ce que l'Europe fait. La classe politique nationale n'a pas beaucoup d'incitation à dire que la plupart des décisions aujourd'hui sont prises à Bruxelles et à Strasbourg. Et donc, il y a une difficulté vraiment de rentrer dans cette dynamique. La conférence sur l'avenir de l'Europe, un exercice qui n'a pas vraiment conquis beaucoup de personnes en Europe, nous a montré cette demande de la plupart des citoyens qui étaient réunis, qui étaient tirés à sort quand dans une convention similaire à celle qu'il y a eu en France avec la convention climat, qui demandait, et j'ai assisté à plusieurs sessions, de comprendre davantage ce qui se passe en Europe. Quelles sont les dynamiques qui finalement se passent en Europe et comment c'est possible qu'aujourd'hui ces politiques européennes qui façonnent nos vies et nos opportunités sont décidées finalement selon des procédures qui restent méconnues et selon des dynamiques qui restent sur les papiers plutôt nationales, puisque les élections européennes restent quelque chose de très national. Et donc, il y a un vrai paradoxe. Finalement, aujourd'hui, les décisions sont prises à Bruxelles et à Strasbourg par des élus qui ont été choisis au niveau national et qui n'ont aucune incitation de regarder finalement à l'impact que leurs décisions ont au-delà de la frontière. Et c'est ce défi démocratique, et qui d'abord est un défi de clarté qui se pose à nous tous, qui va finalement définir les prochaines étapes des réformes démocratiques qui s'imposent aujourd'hui. Les citoyens sont vraiment l'acteur manquant dans les processus d'intégration européenne. C'était un projet étatique qui a, d'une certaine manière, rebondi sur les citoyens, mais on n'a jamais donné l'opportunité, même pas lors des élections européennes, de choisir et donc de s'approprier du sujet européen. Et c'est justement ces changements auxquels on est en train d'assister aujourd'hui, la création d'un espace et donc d'une sphère politique transnationale qui permettra à un plus grand nombre de citoyens de s'approprier du sujet européen et de comprendre et de saisir finalement les enjeux que les événements récents que Gilles Gressani a mentionnés, donc la pandémie finalement, la crise ukrainienne, nous ont imposés. Ils ont montré la nature incomplète du projet européen. Et les citoyens veulent justement avoir leur mot sur comment cette Europe et les différentes visions de l'Europe pourraient se confronter dans les années à venir.
Carrefour de l'Europe, Juliette Rangeval.
des crises pour approfondir l'Europe. On en parle dans Carrefour de l'Europe avec nos partenaires du Grand Continent. Et on va commencer par parler d'eux, de ces citoyens européens que vous mentionniez, Alberto Alemano. Est-ce que, vous le disiez, on assiste à la naissance timide d'un espace politique européen. Est-ce que l'appel de 3 dirigeants européens à l'élection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, ça, c'est un signe de la création de cet espace?
Sans doute, c'est encore un signe, c'est l'énième signe. Je pense que pendant très longtemps, il y avait une règle non écrite en Europe selon laquelle les dirigeants politiques nationaux ne devaient pas s'immiscer dans les débats politiques nationaux. Mais cependant, au fur des années, cette règle a été enfreinte, car elle est le fruit d'une fiction. Aujourd'hui, les choix politiques pris dans un pays ont un effet direct dans un autre. Et dans la mesure où ces choix, souvent électoraux, changent, les équilibres politiques au sein du Conseil européen peuvent changer également la direction de l'Union. Rappelez-vous les mouvements des 5 étoiles qui étaient au gouvernement en Italie au moment où rendait visite aux Gilets jaunes en pleine crise en France, ou encore les efforts à droite plutôt inédits de créer une transnationalisation de leur message avec M. Orban, Mme Le Pen et encore M. Salvini qui ont essayé de se coordonner pour créer cette forme finalement de message et programme politique qui se présenterait à tous les Européens. Le dernier exemple de cette européanisation du politique, vous l'avez mentionné, le fait que la candidature d'Emmanuel Macron n'a pas simplement été promue en Europe par d'autres leaders, provenant même par d'autres familles politiques, mais également été favorisé. Il faut rappeler à qui nous écoute que finalement les dirigeants politiques de l'Union européenne ont suspendu des décisions majeures, telles qu'un embargo prétorien contre la Russie, pour ne pas provoquer d'augmentation des prix qui aurait pu mettre en danger l'attrait national des Macron. D'ailleurs, ces choix auraient pu coûter des vies en Ukraine et peut-être à coûter de vie. C'était un choix politique qui a été pris de façon transnationale en Europe. Donc oui, on assiste à l'émergence d'un espace politique transnational qui n'est pas encore si visible comme il devait l'être, mais très probablement, grâce également à la réforme de la loi électorale européenne pour les parlements en 2024, on assistera à une accélération dans l'appropriation du sujet européen par les citoyens et par la classe politique qui n'aura pas de choix mais d'y suivre.
Florian Louis, est-ce que justement cette création d'un espace politique transnational, ça change les dynamiques, ça permet d'être une force géopolitique pour l'Europe?
Alors, c'est important, bien sûr. On sait que le soutien des opinions publiques et des peuples à leurs dirigeants, ça aide à mener une politique, et surtout une politique étrangère, et surtout à la tenir sur la durée. C'est cependant pas indispensable. On a des exemples très récents de dictateurs qui mènent des politiques de puissance dont on n'est pas certain que leur population les soutienne. Donc, c'est pas indispensable, mais c'est mieux. C'est mieux parce que si on prétend, comme le prétend la Commission européenne depuis 2019, faire de la géopolitique, ça veut dire qu'on prétend faire d'abord de la politique, puisque dans géopolitique, il y a politique. Or, on le sait, la politique, ça repose sur le clivage, sur la distinction de l'ami et l'ennemi, sur le fait de dire ce pourquoi et ce contre quoi on est. Et évidemment, on est d'autant plus puissant qu'on est tous ou très majoritairement d'accord sur ce que l'on veut et sur ce que l'on ne veut pas. Et de ce point de vue-là, la crise actuelle en Ukraine est quand même très bénéfique du point de vue de la puissance européenne, parce qu'elle a quand même permis, pas totalement, mais de dépasser un certain nombre de clivages qui clivaient justement les politiques étrangères des différents États européens, entre des États d'Europe centrale et orientale qui craignaient plus la menace russe et des États méridionaux ou occidentaux qui étaient plus inquiets par ce qui se passait par exemple au Sahel. Là, il est clair que l'invasion de l'Ukraine a quand même permis, même si on voit la Hongrie notamment qui traîne encore un peu des pieds, mais de ressouder tout cela. Donc la réémergence ou le renforcement de certaines adversités devrait aider à la fois à soulever les opinions publiques et donc à renforcer la capacité d'empuissancement des États européens et in fine donc de l'ensemble européen lui-même qu'il compose.
Est-ce que, Luisa Bialasiewicz, dans ce modèle européen que vous défendez, qui serait un modèle civil, justement, il n'y a pas cette obligation d'avoir les opinions publiques avec soi, parce que d'avoir un modèle européen qui pourra défendre ses positions de manière globale?
Oui, absolument. On ne l'a pas. Maintenant, je crois que, comme je disais avant, c'est là que réside le pouvoir de l'Europe. Mais je dis ça en étant pleinement conscient du fait que l'Union européenne doit retrouver sa crédibilité à cet égard. Et je pense, par exemple, aux démissions du directeur de l'Agence européenne des frontières, du Frontex, Fabrice Leggeri, la semaine dernière. Et ça, c'est un bon exemple. Parce que comment est-ce que l'Union européenne peut-elle prétendre d'être une puissance normative en dehors de ses propres frontières, mais même pour ses citoyens, lorsque ces agences non seulement tolèrent, mais s'engagent directement dans la violation des droits de l'homme. Et la politique frontalière et migratoire de l'Union européenne est, je crois, un élément clé de sa politique étrangère. Et en fait, c'est, on peut dire, une carte de visite géopolitique essentielle. Alors, il est très difficile de dire que l'Europe mène par ses normes quand on est témoin de ce qui se passe à ses frontières, même en Méditerranée ou à l'Est. Et en fait, si l'Europe a été louée pour sa réponse rapide à la crise migratoire ukrainienne, cette réponse a été également très discriminatoire. Et je pense même à un pays comme la Pologne qui a accueilli des millions de réfugiés ukrainiens et en même temps bloqué les réfugiés à la frontière avec la Biélorussie. Alors, on a beaucoup de travail à faire encore.
On va s'intéresser à cette initiative timide pour rapprocher l'Union des citoyens, la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est la chronique « C'est mon Europe » d'Alice Roujat. Bonjour Alice.
Bonjour.
L'Union européenne est souvent victime de désamour. On lui reproche d'être trop technocratique, éloignée du quotidien de ses 447 millions de citoyens. Il faut le dire, son fonctionnement est complexe et nécessite une bonne maîtrise des institutions. Alors les choses ont peut-être changé un peu grâce à la conférence sur l'avenir de l'Europe, cet exercice inédit de démocratie participative qui vient de publier ses 325 propositions pour l'Europe de demain. Alors, C'est mon Europe sur RFI, c'est la chronique de la jeunesse européenne. Alice, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça a à voir avec la conférence sur l'avenir de l'Europe ?
Eh bien, ça a à voir qu'au milieu de cet exercice citoyen, on a voulu donner la parole aux jeunes. Ça paraît logique, si on veut tracer les contours de l'Europe de demain, il vaut mieux le faire avec ceux qui en seront encore les citoyens. Parce qu'en 2019, la moyenne d'âge des eurodéputés, c'était 50 ans, et seuls 3 des 705 représentants du Parlement avaient 25 ans. Donc là, l'idée, c'était de constituer des panels citoyens vraiment représentatifs de la société. Dans les 27 États membres, on a tiré au sort, ou admis après inscription en ligne, des participants dont plus d'un tiers avaient entre 16 et 25 ans. Mais bon, même si des jeunes des milieux ruraux ou des quartiers populaires ont pu être sondés, en banlieue de Paris comme de Dublin, l'exercice démocratique est quand même resté sous les radars. Les panels ont surtout attiré des jeunes déjà politisés ou soucieux d'Europe.
Et on a aussi permis aux jeunes de s'exprimer via une plateforme en ligne.
Le site Parole aux jeunes a été ouvert en parallèle en mai de l'année dernière pour le Jour de l'Europe, le 9 mai donc si vous voulez le retenir. Plus de 50 000 personnes âgées de 15 à 35 ans ont pu répondre à cette question posée dans 24 langues. Quelles sont vos priorités pour l'Europe de demain ? 50 000, c'est bien, mais c'est peu. Et c'est à l'image de l'implication des jeunes dans le processus européen, même si aux dernières élections européennes, la participation des jeunes était en hausse, notamment en Belgique et en Allemagne, pays moteurs de l'UE. En moyenne, à peine un jeune sur deux s'était déplacé pour voter. Au Portugal, le taux de participation s'élevait à 30% et en Slovaquie à 23%.
Alice, revenons-en à ces 325 propositions. Comment est-ce que nos jeunes envisagent l'Europe du futur ?
Alors déjà, pour bien comprendre, tous ces jeunes citoyens ont travaillé dans des groupes par thématique et en plusieurs rounds de sessions plénières. Impossible donc de dire si les propositions sont uniquement celles de la jeunesse. Globalement, ce qui est ressorti de ces travaux, c'est l'idée d'une Europe plus forte et plus active dans la transition climatique, la santé et le social, avec des mesures comme l'orientation des subventions de la PAC vers l'agriculture biologique, l'établissement de normes minimales communes en matière de soins, le fait de voter aux élections européennes dès 16 ans, ou l'instauration de moments de démocratie participative, exactement comme cette conférence.
Mais si ces propositions sont acceptées, elles nécessiteront une refonte des traités européens.
Oui, clairement, pour beaucoup des citoyens sondés, ce qui fait que l'Europe semble si loin de ses habitants, c'est parce que les décisions sont compliquées à prendre et qu'elles peuvent mettre du temps à se concrétiser en loi nationale. Mais cet exercice a peut-être ouvert une brèche. Ce week-end, pile quand tombaient les propositions émanant de la conférence, le Parlement européen a demandé une révision des traités pour lui donner plus de pouvoir et d'indépendance par rapport à la Commission, comme quoi on a toujours besoin d'idées neuves.
Merci Alice, à bientôt. Alberto Alemano, vous qui avez assisté, vous le disiez, à ces réunions de la conférence sur l'avenir de l'Europe, vous avez vu beaucoup de jeunes ?
Oui, sans doute. En tant qu'expert, observateur de la conférence, je peux vous assurer que j'étais assez surpris par la nature, disons, authentique de l'exercice. C'est vrai que tout a été cadré par les institutions et les États membres, mais c'est vrai aussi que les citoyens qui ont été choisis, qui ont été tirés à sort, étaient beaucoup plus représentatifs par rapport à, aux individus qui normalement s'intéressent à l'Europe. C'était très intéressant de rencontrer des retraités, évidemment, un nombre de jeunes qui étaient, si vous voulez, sous-représentés par une volonté également méthodologique, à savoir un quart des citoyens participant à la convention avaient moins de 25 ans. Et donc, oui, ils étaient là. Et ce qui était absolument incroyable, c'est qu'en fait, la plupart de ces gens n'avaient pas une langue commune. On sortait de l'idée très bruxelloise de ce qu'on appelle un peu la bulle bruxelloise où tout le monde parle anglais, pas du tout. Les citoyens n'avaient pas une langue en commune, donc il y avait d'autres manières de communiquer. On utilisait des langues pivots sur la base des connaissances que d'autres citoyens avaient, et il y avait évidemment l'interprétation constante pendant la délibération. Je vous assure que c'était un exercice très frais et c'était encourageant de voir qu'on peut donner l'opportunité aux gens de se sentir à l'aise lorsqu'ils discutent sur les sujets européens, qui se rencontrent finalement, touchent et définissent leur vie. Tout cela s'est produit pendant la dernière année avec une timide couverture médiatique qui, je pense, là, pendant les prochains jours, va finalement rattraper le coup et nous raconter de quoi s'agit-il, pourquoi les citoyens ont été réunis et quel type de recommandations finalement ont mis en avant. C'est quelque chose, c'est un regard assez frais, c'est un regard, je dirais, assez progressiste par rapport à l'avenir. Il y a des demandes, vraiment des transformations intégrales de notre façon de travailler aujourd'hui en Europe. On peut parler d'agriculture, on peut parler des politiques énergétiques. Finalement, tous les politiques et les grands défis ont été abordés avec beaucoup de maturité et de courage par nos citoyens.
Est-ce que la bulle bruxelloise à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, elle est prête à entendre ça, ou est-ce que ces propositions risquent de rester lettre morte ?
Moi, je pense qu'il y a une volonté politique croissante aujourd'hui à Bruxelles de se rendre compte et de constater que la nécessité de réouvrir les règles du jeu s'impose aujourd'hui avec une telle évidence qu'il semblerait presque impossible, d'un point de vue politique, de ne pas y répondre. L'histoire nous enseigne que nous avons eu besoin de revoir les traités au moins 6 fois pendant les derniers 70 ans. Et si l'on compte que depuis 2007, on n'a pas vraiment réussi, voilà, le moment est venu. Les transformations auxquelles nous sommes supposés entreprendre aujourd'hui demandent une forte accélération de notre capacité d'action collective. Les contextes actuels, comme a été commenté tout à l'heure par Louisa, est très favorable, car finalement, les limites du système actuel sont sous les yeux de tout le monde. Et encore, M. Draghi, qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui a nécessairement joué un rôle politique direct dans le façonnement de l'Europe, a eu l'occasion de reconnaître devant le Parlement européen que finalement, les institutions ne sont pas adéquates, que les procédures ne fonctionnent pas. Et donc, voilà, le moment est venu pour finalement faire accélérer et répondre à cette demande croissante. Il va être très difficile pour les politiciens européens de ne pas répondre de manière convaincante à cette demande d'Europe et des clartés provenant du bas.
Gilles Gressani, je vous pose la question à votre tour. Est-ce que, on a parlé des dissensions sur les frontières, de la variété des langues de l'Union européenne, est-ce que Bruxelles, la sphère bruxelloise, peut entendre qu'on est au bout d'un système et qu'il faut changer des modes de fonctionnement pour approfondir l'Europe ?
Bien, encore une fois, on est tellement confronté à des crises qui ont transformé la façon politique d'affronter le monde, que finalement, les règles du jeu dont parlait Alberto Alemano sont déjà de fait suspendues et bouleversées. Donc la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est il y a une volonté politique ou pas pour inscrire ces changements d'une manière plus infrastructurelle. En fait, très concrètement, si on regarde comment a été gérée la crise du Covid à l'échelle européenne, on se rend compte que la plupart des règles qui étaient presque un peu obsessionnelles sur la gestion de la dette, des mesures sur la concurrence, ont de fait été suspendues, ont presque intégralement été revues. La question qui se pose aujourd'hui, et c'est un peu quelque chose qui est aussi lié à cette séquence très compliquée, parce qu'on sort de la pandémie et il y a la guerre, c'est de savoir si on veut et on a la capacité d'aller plus loin et dans une situation dans laquelle, au fond, on sera soumis à des bouleversements profonds, la crise de l'inflation, un vrai problème aussi de l'asile qui va se poser. Est-ce qu'on est capable de répondre dans cette période de crise à une transformation? Et là-dessus, je pense que ce qui émerge de la crise du Covid, c'est que la volonté politique, au fond, est capable de revoir des consensus qui semblaient presque ossifiés, presque définitifs, d'une façon assez rapide. Il faut simplement qu'il y ait une convergence et, disons, le franco-allemand peut être renouvelé, la continentalisation, donc le rôle de plus en plus moteur des pays baltes et aussi, au fond, des moments de convergence transnationaux peuvent nous aider, effectivement, à arriver à délivrer cela.
On va revenir sur cette idée d'un espace politique transnational qui se crée, puisqu'on y a fait un peu référence. Le Parlement européen vient d'adopter le principe de liste transnationale pour les élections européennes. Alors, on n'est pas encore au bout du processus. Probablement sera pas mis en place en 2024. On espère 2029, mais cela constituerait un premier changement électoral au sein de l'Union européenne depuis 1976. Je propose d'écouter les explications de Jean-Jacques Herry à Strasbourg.
Avec le principe électoral actuel, la composition de la Chambre parlementaire européenne n'est que l'addition des résultats de 27 élections qui se jouent le plus souvent sur des enjeux nationaux au sein des États membres. Le projet adopté ne met pas fin à cela, mais il propose d'accueillir 28 nouveaux députés au Parlement. Eux aussi seraient élus à la proportionnelle, mais dans une circonscription transnationale. Ils figureront sur de véritables listes européennes qui regrouperont des candidats des 27 États membres. Ces listes seront proposées par des coalitions de partis politiques nationaux, des associations nationales d'électeurs ou des partis politiques européens dont les candidats mèneront campagne dans toute l'Union pour convaincre un électeur qui aura alors deux bulletins de vote à choisir une fois dans l'isoloir, comme l'explique l'eurodéputé Renew Pascal Durand.
Si je prends un exemple pour illustrer, en Italie, il n'y a pas de parti vert extrêmement puissant. Ils sont faibles et pas représentés. Vous pouvez être jeune italien et avoir envie de voter, je ne sais pas moi, pour aider le gouvernement italien, etc. Donc vous votez pour le Parti démocrate ou pour un autre, c'est pas grave. Et en même temps dire, mais ça serait bien qu'il y ait des écolos forts au Parlement européen, donc je vote pour la liste transnationale écolo.
Beaucoup d'obstacles restent à franchir avant une éventuelle entrée en vigueur de la réforme dès les prochaines élections européennes de 2024. Il faudra d'abord négocier avec le Conseil européen et réussir à obtenir l'unanimité des 27 États membres. Jean-Jacques Herry, Strasbourg, RFI.
Alberto Alemano, ce vote du Parlement européen, il est très symbolique. Il a été très serré également, hein. 323 voix pour, 262 voix contre, 48 abstentions. Est-ce qu'on a un peu une idée de qui a voté contre cette proposition ?
L'idée d'européaniser la compétition électorale n'est pas nouvelle. Ce n'était pas la première fois que ce vote a eu lieu. Le tout dernier, c'était en février 2018, lorsque la plupart des membres du Parlement européen, environ 400 sur 700, ont voté contre. Et donc, la marge était limitée cette fois. Ils savaient qu'il y avait une majorité, il y avait un accord politique. Mais effectivement, jusqu'à la dernière minute, on n'a pas su si cette fois, cette proposition d'européaniser le débat aurait pu passer. Il y a toujours eu une résistance de la part des forces politiques pour ce type d'européanisation. Il faut penser que finalement, les parlementaires qui sont censés voter pour cette réforme ont été votés au niveau national, très souvent dans une circonscription même limitée à leur région. Donc finalement, pourquoi devrait faire ces types de passages. Si l'on regarde au vote sur les listes transnationales, on peut s'apercevoir qu'au-delà d'une résistance de la part du centre-droite et de la droite du Parti populaire européen, les clivages sont également générationnels. C'est-à-dire qu'on peut identifier que la plupart des jeunes qui siègent dans les partis populaires qui en 2019-2018 ont voté contre cette liste transnationale, ils se sont trouvés à voter à faveur. Ils ont senti que finalement, ils devaient s'asseoir sur les côtés de l'histoire qui semblerait s'imposer. Ils pensent évidemment à leur avenir politique et donc ils essaient de lire l'histoire et de s'y positionner dans cela. C'est un signe encourageant, c'est une vision évidemment transnationale qui permettra à plusieurs visions de l'Europe de se confronter à l'avenir. C'est tout pas simplement une vision fédéraliste qui s'impose. L'effet de permettre à toutes les forces politiques de présenter un programme politique, une liste des candidats communes en Europe, ça peut vraiment faire une bercée dans un processus politique qui a été finalement simplement la somme des différentes procédures nationales et donc des partis nationaux qui n'avaient aucune visibilité en Europe et vice-versa. Personne ne connaît les partis politiques européens. C'est quelque chose d'inédit et absolument d'inacceptable, je pense, d'un point de vue citoyen. Comment c'est possible qu'après 70 ans d'intégration, nous avons atteint un niveau d'intégration socio-économique absolument inédit dans l'histoire, mais qu'à cela n'a pas fait suite un niveau d'intégration au niveau politique qui correspond à cette intégration qui a eu sur nos vies et sur nos dynamiques sociétales.
Est-ce que l'élection à la tête du Parlement européen, il y a quelques mois, de Roberta Metsola, la Maltaise, c'est aussi un signe de l'apparition d'une véritable classe politique européenne? Il y a des hommes politiques nationaux qui ont eu des carrières ailleurs en Europe, mais voilà, de quelqu'un qui serait vraiment forgé au niveau européen.
Oui, les choix de Roberta Metsola comme président du Parlement européen incarnent parfaitement l'arrivée, dans ses sens, à l'âge adulte du processus politique européen. Contrairement à la plupart d'autres dirigeants, qui s'essorent sous la von der Leyen, Charles Michel, Christine Lagarde ou encore Emmanuel Macron, Metsola est la première dirigeante européenne dont la vie personnelle et politique a été réellement vécue sur une échelle continentale. Et mon sentiment est que l'européisme profond et authentique de cette présidente aura beaucoup d'influence sur la direction européenne. Il faut quand même rappeler qu'elle était la première dirigeante européenne à aller en Ukraine. C'était quand même quelque chose qui était inattendu en ces moments. Et cela pourra effectivement être contagieux, comme une espèce de virus européen qui contamine nos conversations, mais également les classes politiques nationales qui vont finalement avoir un modèle politique et donc une nouvelle culture politique en Europe, qui pourra inspirer d'autres actions, d'autres reflets qui jusqu'à maintenant ne trouvaient pas de place dans un contexte électoral qui restait national. Et donc pourquoi quelqu'un devait s'adresser à des citoyens qui ne pouvaient pas en fait lui voter lors des prochaines élections. Là, la donne change complètement. Et de ce point de vue, Metsola pourrait incarner cette nouvelle génération de politiciens européens.
Gilles Gressani, sur le spectre politique, l'extrême droite est particulièrement immunisée contre le virus européen. Est-ce que là aussi, les choses sont en train de changer ?
Elles sont en train de changer, très fortement. D'abord parce que il faut dire que la guerre en Ukraine change la donne, parce que à l'extrême droite, Poutine joue un rôle important. On a pu dire que c'était un peu l'imprésario politique d'une toute la famille, disons, plus réactionnaire d'extrême droite qui a fait est assez puissante en termes électoraux sur l'échelle européenne. Un soutien à la fois matériel, on le sait avec le Rassemblement national par exemple, mais aussi et surtout idéologique. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de se revendiquer de cet héritage idéologique, de cette continuité. Donc on voit aujourd'hui une forme de rupture, de passage à vide de cette capacité au fond de proposer une extrême droite qui voit en Poutine un peu un modèle, même si évidemment la réélection de Viktor Orban a été célébrée par Orban lui-même comme une victoire contre Zelensky. Et il y a très peu de leaders aujourd'hui qui assumeraient de prendre la parole de cette manière contre le dirigeant ukrainien. Donc on voit effectivement une rupture de ce front qui est une rupture géopolitique. Par contre, il y a un élément qui est très important à prendre en compte et qui accompagne ces phénomènes d'européanisation de l'extrême droite, c'est que, au fond, on l'a vu encore une fois avec la campagne électorale qui vient de s'achever en France, l'extrême droite aujourd'hui, quand elle essaie d'être de gouvernement, elle a besoin d'être dans une continuité vis-à-vis de l'euro, vis-à-vis aussi en partie des institutions européennes. On a vu, par exemple, la différence entre la campagne de 2017 et 2022 de Marine Le Pen, le fait de revendiquer de ne pas vouloir sortir de l'euro, de ne pas vouloir de Frexit. Et c'est assez intéressant parce que quand on se pose la question de pourquoi, au fond, aujourd'hui, l'extrême droite de gouvernement est, au fond, dans une forme ambiguë, mais quand même convergente vis-à-vis du projet européen, c'est que, au fond, il y a là aussi des raisons qui sont très infrastructurelles, très matérielles. C'est que, typiquement, une partie importante de l'électorat du Rassemblement national est attachée à l'euro. On peut penser aux retraités, on peut passer aux petites entreprises. Pourquoi on est attaché à l'euro ? Et là, c'est assez intéressant parce que c'est probablement moins lié à des considérations purement macroéconomiques ou de, disons, monétaires, et beaucoup plus à des considérations qui, au fond, touchent l'appartenance. Au fond, on préfère l'euro parce qu'on a l'impression, et c'est à vérifier que c'est une impression réelle, donc c'est une représentation, au fond, de l'euro comme un espace de protection, comme quelque chose qui est capable de protéger et de renforcer par rapport, au fond, au franc. Et donc, on affronte, par ce biais-là, on est face à une espèce de transformation à l'extrême droite aussi, une européanisation de l'extrême droite aussi, qu'il faut étudier de près parce qu'on n'est plus du tout dans une forme de contestation. Il y a vraiment un projet. Évidemment, Orban a été un des idéologues principaux. Cette fameuse Europe blanche et chrétienne, c'est une citation de ce qu'il pense, qui aujourd'hui est convergente pour un tas de partis d'extrême droite en Europe.
Plus que des moitié d'humains déprimés. Bienvenue pour le bal masqué. Où est-il le temps doré du paradis du pommier, le jardin d'Éden et d'année. Je veux pas savoir, je veux pas connaître la fin de de l'histoire. Juste se donner une chance peut-être. On est comme des demi-dieux. On ne voit plus que y a la fourmilière qui déconne. On est des millions sans personne. Au pied des tours de Babel, on attend le Père Noël. Mais il a dû se faire la belle. Sur les pavés, on voit tomber des bouts d'étoiles. À croire que le ciel est abîmé. On est comme des...
Paul Delaf, demi-dieu sur RFI dans Carrefour de l'Europe. Dans les crises, l'Europe qui protège, en partenariat avec Le Grand Continent et son directeur Gilles Gressani, et nos invités Florian Louis, historien, et en ligne de Venise, Luisa Bialasiewicz, géographe. Dans le studio d'RFI à Bruxelles, Alberto Alemano, juriste. Gilles Gressani, on entend une expression qui revient sans cesse depuis le début de cette émission, c'est celle de souveraineté stratégique. Qu'est-ce que ça signifie pour l'Europe ?
Ça signifie d'abord qu'aujourd'hui, il y a un débat qui concerne des mots. Depuis quelque temps, il y a un chantier qui est ouvert pour essayer de trouver les bons mots, et Luisa en parlait tout à l'heure, pour essayer de définir un changement. Et au fond, ce qui doit nous interroger, c'est de quel changement on parle. On parle au fond d'un changement du rapport qu'a l'Union européenne et la construction européenne vis-à-vis de la puissance. Et évidemment, c'est un chantier très ouvert parce que c'est un sujet très sensible, parce que le rapport de la puissance est un rapport complexe. Évidemment, les États ont aussi des histoires très différentes et très divergentes au niveau européen vis-à-vis de ce problème. Et le monde autour de nous est en train d'évoluer très vite. Donc au fond, souveraineté stratégique, c'est la synthèse un peu aventureuse de deux concepts, qui est souveraineté européenne, Europe-puissance, concept plutôt émanant de Macron et de son initiative politique, et d'un autre concept qui est autonomie stratégique, avec l'adjectif ouvert, qui a été repris et utilisé par la Commission européenne pour effectuer ce grand aggiornamento. Souveraineté stratégique, donc on prend deux mots et on crée cette espèce de Frankenstein qui marche au pas un peu étonnant, c'est une notion inventée par les Allemands pour leur contrat de coalition, notamment par Franziska Brandner, confère le papier qu'elle avait publié sur le Grand Continent à ce sujet. L'idée, au fond, c'est de prendre une partie de l'autonomie stratégique, donc l'idée qu'au fond, il faille continentaliser, mais pas s'arrêter avec l'idée d'un protectionnisme qui ferait que tout soit produit en Europe, et donc avec une idée d'une création d'un espace convergent, un hub, qui soit capable de maîtriser des flux avec une partie de l'Afrique du Nord, une partie de l'Asie.
Florian Louis, ça vous convient, vous, cette expression de souveraineté stratégique ? Vous vous y retrouvez ?
On comprend en tout cas effectivement qu'il y a dans cette expression une volonté d'essayer qu'un maximum d'Européens s'y retrouvent. Moi, ce n'est pas bien important, mais qu'un maximum de pays s'y retrouvent. Et pourquoi s'y retrouver ? Parce qu'effectivement, dans cette période d'interrègne dans laquelle on est, on a une Europe et des Européens qui sont déboussolés, d'où ce concept aussi de boussole stratégique qu'essaie de développer l'Union européenne pour justement essayer de fixer des repères sur où nous sommes, qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons. Et cette quête de la souveraineté stratégique, elle s'explique très largement par non seulement les crises dont on vient de parler, mais aussi par les inquiétudes vis-à-vis du partenaire et du partenariat transatlantique. Il ne faut pas oublier que aussi cette idée de commission géopolitique, elle date d'une époque où les États-Unis étaient dirigés par Donald Trump, qui avait accéléré et radicalisé le pivot vers l'Asie théorisé par Obama, et donc une sorte un peu de panique et de déboussolement des Européens face au désengagement américain, qui faisait prendre conscience qu'il fallait essayer donc de prendre de manière autonome les choses en main. Et ça renvoie un peu à ce que la citation de Pascal Lamy qu'on citait au début, l'idée d'une condamnation à la puissance, condamnation qui vient aussi des États-Unis. Alors, ça change un petit peu avec Biden, on pourra en discuter, hein, mais voilà, finalement, les Européens n'ont pas le choix. Ils sont contraints à l'autonomie autant qu'ils la réclament. Et finalement, et là, je pense qu'effectivement, ils ont raison, quitte à ne pas avoir le choix, autant endosser la chose, essayer de la construire plutôt que de la subir.
Luisa Bialasiewicz, vous disiez tout à l'heure que le vocabulaire utilisé, le vocabulaire de la puissance, était peut-être un vocabulaire qui ne convenait pas totalement, qui était même peut-être déjà un petit peu daté, non, par rapport à 2019. Le monde d'aujourd'hui, l'Europe qui se construit, elle doit prendre quelle forme ?
Alors, je crois que ce qui me préoccupe, justement avec la notion de souveraineté stratégique, en fait, je préfère largement, je dois dire, l'idée de l'autonomie stratégique. C'est à part qu'en fait, c'est une notion Frankenstein, comme disait Gilles. ce qui me préoccupe, c'est je crois que en fait, comme imaginaire, on tombe une fois de plus dans un imaginaire ancien de la géopolitique du pouvoir, du hard power. Et je crois que aussi une vision géopolitique de l'Europe fondée sur des notions qui sont territorialisées, comme la notion de souveraineté, ça n'a plus grand sens dans un monde où les principaux défis, à mon avis, sont le changement climatique, la transformation digitale, ou même les menaces liées à la biosécurité, comme la pandémie. Alors, tous les trois, ce sont des défis qui ne sont pas seulement liés au territoire. Alors, on peut certainement tenter de localiser, de contenir en façon territoriale ces dangers. Alors, utiliser le mot qui nous donne cette idée, mais c'est possible seulement à court terme et avec même aussi des autres dangers. Alors,
lesquels?
Cet imaginaire. Alors, je crois que cette. Récit géopolitique de la récupération du contrôle souverain est dangereux parce que c'est fondé sur l'autarcie, sur la fermeture. Et même si cette fermeture est européenne plutôt que nationale, ça ne peut pas fonctionner dans un monde interconnecté. C'est une conception fondée, je crois, sur un imaginaire territorial qui est seulement visé à protéger intérieur des incursions d'un extérieur dangereux. Ce n'est pas ça le projet européen, à mon avis, mais revenons au travail de la conférence dont parlait Alberto. Ce n'est pas non plus l'Europe qui vient imaginer et qui vient demander par les citoyens européens en ce moment.
Oui, c'est une contradiction qui paraît quand même forte, Florian Louis. D'un côté, on voit que la question des frontières, la question du territoire, ça reste essentiel pour beaucoup d'Européens. Et Louisa Bialasiewicz nous le disait, les enjeux, ils dépassent le territoire.
Parce que les enjeux, effectivement, sont multiples et différents. Il y a des enjeux qui sont géopolitiques et donc territoriaux. Une fois de plus, la guerre en Ukraine, c'est des enjeux territoriaux et donc géopolitiques. Mais là où elle a tout à fait raison, c'est qu'on a d'autres grands enjeux, le climat, la pandémie, par exemple, qui sont des enjeux qui ne sont pas tant géopolitiques que cosmopolitiques, qui concernent l'humanité dans son ensemble, qui ne sont pas des problèmes de division entre les humains, mais de défis qui se posent à l'humanité en commun. Et toute la difficulté qui se pose à l'Union européenne, comme à tous les acteurs géopolitiques aujourd'hui, c'est comment concilier la réalité, parce que ça reste une réalité d'un monde géopolitique où il y a, et il y aura sans doute malheureusement toujours, des divisions et des affrontements entre les sociétés et les États, et en même temps une réalité de plus en plus patente, à l'heure de l'Anthropocène notamment, de défis cosmopolitiques qui nécessitent de, non pas abandonner, parce que c'est sans doute impossible, mais être capable de concilier la persistance de divisions géopolitiques et la nécessité de coopération cosmopolitique. Et il est vrai que l'Union européenne est sans doute, par son histoire, par son projet, par son ADN, mieux armée pour ces enjeux cosmopolitiques, parce que finalement, l'Union européenne, c'est une cosmopolitique à l'échelle continentale, et donc elle pourrait, pour le coup, servir de modèle de cosmopolitisation à l'échelle globale, et elle essaie de le faire avec les moyens qui sont les siens. Et bien sûr, c'est un défi immense, on ne peut pas lui reprocher de ne pas y parvenir totalement.
Gilles Gressani.
Je suis comme souvent d'accord avec Florent Louis quand il s'agit de parler de géopolitique. Au fond, la question qui se pose aujourd'hui, je pense qu'on en a beaucoup parlé, c'est une question de débat. Et le problème qu'on a, c'est aussi que pour parler d'autonomie stratégique, pour avoir un débat sur l'autonomie stratégique, pour avoir un débat sur la défense commune, en fait, on ne peut pas imaginer d'avoir ce débat-là dans des espaces qui ne sont pas européens. En fait, il faut être capable aujourd'hui de constituer un espace de débat autonome, de politique intellectuelle et stratégique, parce qu'on ne pourra pas faire le débat sur l'autonomie stratégique, sur l'armée, sur foreign affairs ou foreign policy. Et je pense que là-dessus, il y a aussi une question qui est vraiment essentielle, c'est que puisqu'on parle de mots et puisqu'il faut faire cet aggiornamento qui est quand même très dans l'air du temps, qui est demandé à la fois par les crises, à la fois par la citoyenneté, il est nécessaire en fait qu'il y ait une forme d'engagement intellectuel qui soit d'emblée à l'échelle continentale.
Qu'est-ce qui peut porter ce débat? Emmanuel Macron va s'exprimer à Strasbourg lundi sur les propositions de la Convention pour l'avenir de l'Europe. Est-ce que un homme politique national, fut-il président du Conseil de l'UE, est la bonne personne pour porter ces enjeux-là?
C'est une question qui a un peu sa réponse aussi dans sa formulation, quelque part. Parce que, si vous voulez, de fait, c'est vrai que c'est nécessaire qu'il y ait une prise de parole, un leadership politique. Mais ce n'est pas suffisant, au fond, que ce soit par les leaders. Au fond, le paradoxe qu'on a en Europe, c'est que ce sont les Européens qui se voient le plus, ce sont les chefs d'État. Les Européens qui débattent le plus ensemble, ce sont les chefs d'État, ce sont les diplomaties. Donc ce ne sont pas forcément des corps qui sont conçus pour constituer, au fond, de l'intérêt commun. Enfin, on peut y arriver avec des négociations. Mais le paradoxe que nous avons, c'est que pour passer à l'échelle, au fond, on a besoin aussi d'un travail intellectuel. Et ça, c'est quelque chose qui doit rester dans une forme d'autonomie, même si, évidemment, il doit y avoir des passerelles et que c'est très important, au fond, d'ouvrir la politique au débat et vice-versa, d'ouvrir le débat aussi au questionnement politique.
Louisa Bialasewicz, sur quel domaine est-ce que vous attendriez des avancées majeures du débat, justement ?
Alors, je pense à l'appel de Mario Draghi dans ces derniers jours pour ce qu'il a appelé le fédéralisme pragmatique, qui est très proche de la vision du président Macron. Alors, si ça devient concret, si on arrive vraiment à une révision des traités pour abandonner l'unanimité, cela, je crois, changera sans doute la capacité d'action de l'Europe. Alors, moi, je suis optimiste, mais en fait, ça serait un grand pas.
Florian Louis, vous pensez qu'il y a une révision des traités qui pourrait... qu'aujourd'hui, la situation est mûre sur la scène européenne pour cela ?
Elle est en train de mûrir. Est-ce qu'elle est mûre aujourd'hui ? Je ne sais pas. On verra. On voit justement les accords qui se font, notamment à gauche, sur l'idée que, justement, finalement, on peut se permettre de se passer de l'obéissance ou du respect de certains traités en arguant du fait, justement, qu'on l'a déjà fait pendant la pandémie. Donc, on voit bien qu'effectivement, ce qui est mûr, c'est que un accord sur l'idée que ces traités sont... obsolète, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, désormais inadapté. Le problème, là je ne suis pas sûr que ce soit encore mûr, c'est se mettre d'accord pour l'échanger quand on connaît la complexité des modes de décision pour un changement de traité, c'est-à-dire une unanimité des 27, ce qui sera évidemment très compliqué à obtenir. Mais là, bon, on en revient à ce par quoi on a commencé, c'est-à-dire l'Europe a toujours évolué, changé, progressé dans les crises, donc on peut espérer que les maux actuels auxquels on est confronté termineront par des biens, en l'occurrence des traités nouveaux, meilleurs et plus efficaces.
Vous avez des pistes, vous, hors traité, pour les semaines, les mois à venir, que vous aimeriez voir tracées ?
Pas directement, non. Il me semble qu'effectivement, ce qui est important, c'est de clarifier la volonté. C'est-à-dire que tant qu'on est encore à débattre justement sur les mots, on parlait autonomie ou
souveraineté.
Voilà. Bon, il faut d'abord se mettre d'accord. Et le problème, là où c'est compliqué, c'est que ça ne dépend même pas seulement des 27, ça dépend aussi du contexte international. Je parlais notamment des États-Unis, c'est fondamental. C'est-à-dire que, on l'a dit, la guerre en Ukraine permet de faire de la géopolitique parce qu'elle facilite la désignation de qui est notre ennemi. Le problème, c'est qui est le nous. Et c'est ça qui divise les Européens. Est-ce que le nous, c'est nous les Européens ou nous les Occidentaux? Et ça ne dépend pas que de nous, les Européens, ça dépend aussi d'eux, les Américains et de quelques autres. Donc c'est surtout ça. Mais pour le coup, il faut, pour reprendre votre expression, je pense laisser mûrir les choses. Évidemment, on a toujours envie que ça aille vite, mais à l'échelle de l'histoire, l'Union Européenne est très jeune, elle a déjà fait beaucoup et avec le temps, les choses vont se décanter.
Merci. Carrefour de l'Europe à la réalisation Ludivine Amado. Merci à nos invités Florian Louis, historien, Louisa Bialasiewicz, géographe, professeur de gouvernance européenne au département d'études européennes de l'Université d'Amsterdam. Alberto Alemano, juriste et titulaire de la chaire Jean Monnet à HEC, et à Pierre Benazet à Bruxelles. Gilles Gressani, on rappelle que la revue papier du Grand Continent, Politique de l'Interrègne, est publiée chez Gallimard et qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Carrefour de l'Europe en podcast, c'est sur RFI.fr, sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, et vous retrouvez également cet entretien en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI et sur le site du Grand Continent. La semaine prochaine, c'est Léa-Lisa Westerhoff qui sera au micro. À bientôt.